France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Syrie, 2 mois après, la transition suit son cours. Et être français, est-ce que ça se mérite ? Nos débatteurs ce dimanche, Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Vous êtes historien, directeur de l'IFRI, l'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. C'est votre dernier ouvrage aux éditions Talendier. Magaléa Fourcade, bonjour.
Bonjour Hervé.
Magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Didier Lesky, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes par ailleurs président de l'Institut européen en sciences des religions et notre invité cette semaine, Omar Youssef Souleyman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain français-syrien. Vous avez été envoyé spécial du magazine Le Point en Syrie. Vous êtes revenu il y a quelques jours. Vous publiez le 19 mars prochain chez Flammarion, L'Arabe qui sourit. Et chez Flammarion également en 2023, vous avez publié Être français. Et c'est justement la question que nous allons poser dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce qu'être français ? Est-ce que ça se mérite ? Peut-on devenir français par hasard ? Et de quel hasard par le ton, celui de la filiation ou celui de la terre de naissance, débat ancien, mais ravivé ces jours-ci par le Premier ministre François Bayrou pour tenter d'englober la remise en cause du droit du sol dans une problématique plus large. Nous en débattrons. Et avant de partir en direction de la Syrie pour voir où en est la transition dans ce pays, 2 mois après la chute de Bachar al-Assad, je voudrais qu'on commence pendant quelques petites minutes avec vous, Thomas Gomard, pour évoquer la conférence de Munich sur la sécurité dont vous êtes revenu hier, alors conférence annuelle, habituelle. Celle-ci, évidemment, avait quelque chose de particulier puisqu'elle suit de peu le retour de Donald Trump au pouvoir. Donald Trump qui avait dépêché sur place son vice-président Jed Vance, qui a fait une leçon de démocratie aux Européens. Est-ce que c'est la première chose que vous retiendriez de cette conférence ?
C'est certain que le discours prononcé par le vice-président Jed Vance marquera. La conférence de Munich existe depuis 1963 et c'est un peu le temple de l'atlantisme et de la dépense militaire en quelque sorte. Et il y a parfois de grandes séquences. Il y a eu le discours de Poutine en 2007 et je pense que celui de Jed Vance, d'une certaine manière, lui répond en 2025. Parce que outre ce discours, Jed Vance a profité de sa visite à Munich, donc avec là aussi un effet, je dirais, de mémoriel important pour rencontrer Alice Weibel, la dirigeante de l'AFD, et il n'a pas voulu rencontrer le chancelier Scholz. On est à une semaine, je le rappelle, des élections allemandes. Il y a donc un message
l'AFD
politique.
L'AFD, il faut rappeler, c'est l'extrême droite allemande.
Voilà. Donc il y a un message politique tout à fait explicite. Alors sur le contenu de ce discours qui a provoqué effectivement beaucoup de réactions, il a commencé avec sur le ton de la blague, et c'est une blague qui a provoqué le silence le plus complet de la salle, quand il a dit « Si la démocratie américaine a survécu à 10 ans de réprimande de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk ». C'est parti comme ça. Et ensuite, les 3 points que je retiens de ce discours, c'est de dire « 1. La Russie n'est pas une menace. La menace pour l'Europe, ce sont les migrants. 2. L'annulation des élections en Roumanie, avec la manipulation via TikTok, est une erreur fondamentale. Et 3, les Européens ne respectent plus, au fond, la liberté d'expression. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est tout simplement, je le rappelle, avant le discours de Munich, Jed Vance, pendant la campagne, pendant la période de transition, avait indiqué qu'il allait avoir un débat à avoir avec les Européens. Ça sera ou l'OTAN, ou le DCA et le DMA, c'est-à-dire les mesures de gestion des infrastructures numériques. Et ce discours, pour moi, met déjà en scène ce débat de manière extrêmement brutale. Alors, 4 commentaires peut-être pour conclure. D'abord, sur l'Ukraine. La décision prise par Donald Trump de contacter directement Vladimir Poutine et d'entrer dans une négociation directe avec la Russie est d'une certaine manière un cadeau offert au Kremlin, inespéré, puisque les États-Unis rentrent dans la discussion en disant 2 choses. L'Ukraine ne retrouvera pas ses frontières de 2014. Et deuxièmement, il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. C'est 2 points extrêmement importants pour les Russes qui sont déjà acquis d'une certaine manière avant même que la négociation ait commencé. 2e point à relever, c'est l'impréparation des Européens. puisqu'au fond, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur l'arrivée de l'administration Trump, l'invasion en Ukraine date, à grande échelle de l'Ukraine, date de 3 ans. Si les Européens n'avaient pas encore compris que c'est un problème de sécurité qui les concernait, ben là, je pense qu'ils s'en rendent vraiment compte.
C'est quand même sidérant de parler encore de la préparation. Tous les signes
absolument, et l'impréparation aussi. Et les mois provoqués par ce discours relèvent aussi pour moi de l'impréparation. Je veux dire, on a eu une campagne électorale aux États-Unis, on a des déclarations quotidiennes de cette nouvelle administration qui, d'une certaine manière, sont confirmées par le discours de J.D. Vance. Troisième point, ce qui était très intéressant à noter à Munich aussi, c'est une forme de délectation des autres devant le désarroi européen, en particulier des Indiens ou des Golfiques qui disent, au fond, vous nous avez fait des discours de démocratie, voilà, vous en recevez un, apprenez aussi à écouter les critiques que l'on vous fait.
Les Golfiques, c'est les pays du Golfe.
Les pays du Golfe, oui, les pays arabes représentés. Et puis, dernier point, c'est l'attitude du président Zelensky, qui fait preuve, je trouve, de sang-froid, d'intelligence, et qui a posé cette alternative assez radicale pour les Européens. Au fond, si vous détestez autant Bruxelles, vous allez peut-être devoir apprendre à aimer Moscou, et c'est probablement pas votre destin.
Le président ukrainien qui a d'ailleurs appelé à la création d'une armée européenne. On aura l'occasion d'en reparler dimanche prochain, parce qu'on sera au 3e anniversaire de la guerre en Ukraine. On va passer à présent à notre sujet consacré à la Syrie, un peu plus de 2 mois après la chute de Bachar al-Assad. Merci Thomas Komar.
Chaque fois que je pensais quitter la police militaire, j'étais submergé de peur et d'anxiété. J'ai caché la clé USB dans mes chaussettes pour me protéger. J'ai dû quitter le territoire contrôlé par le régime et me rendre dans une zone contrôlée par l'armée syrienne libre. À mon avis, l'ordre de documenter la torture et les meurtres venait du sommet de la hiérarchie du régime. Il voulait prouver qu'aucun des détenus n'avait échappé à son destin grâce à des pots de vin.
C'est un véritable héros, longtemps resté anonyme. On le connaissait seulement sous son pseudo, César. Il y a 11 ans, cet ancien militaire syrien fuit son pays en emportant avec lui des dizaines de milliers de photographies témoignant des tortures infligées aux détenus dans les prisons de Bachar al-Assad. Farid Almazan, César, donc, vient tout juste de sortir de l'anonymat. Vous venez de l'entendre le 6 février dernier. Il témoignait à visage découvert sur la chaîne Al Jazeera. Son travail et son courage ont permis non seulement de documenter les crimes du régime syrien, mais aussi d'entamer des procédures judiciaires en France et en Allemagne notamment contre d'anciens collaborateurs du président Assad. Petit à petit, la Syrie se réveille d'un long cauchemar. 54 ans de dictature, 13 ans de guerre civile, plus de 500 000 morts, des millions de réfugiés et de déplacés internes. Des villes sont détruites. Selon l'ONU, plus de 90% de la population a besoin d'une aide humanitaire. La reconstruction s'annonce longue et délicate. Longue et délicate en raison du contexte international et en raison de la nature du nouveau régime. Le contexte, comment financer la reconstruction estimée à 400 milliards de dollars au moment où les États-Unis décident de réduire drastiquement leurs aides financières à l'international au risque de laisser la voie libre à d'autres puissances régionales. Mais c'est aussi la nature du nouveau régime qui continue d'interroger. Alors le président par intérim, Ahmad El-Sharré, a fait jusque-là, semble-t-il, un sans-faute. Dissolution de tous les groupes armés, y compris le sien, le HTS, en vue de leur intégration dans l'armée régulière. Annonce pour le 1er mars prochain d'un gouvernement inclusif représentant autant que possible le peuple syrien, des gages de bonne volonté susceptibles ou pas de gommer son passé de djihadiste. À Paris, jeudi, une vingtaine de pays arabes et occidentaux se sont engagés à œuvrer à cette reconstruction et à protéger la fragile transition de la Syrie des ingérences étrangères. La France a confirmé que l'Union européenne travaillait à une levée rapide des sanctions économiques adoptées contre le régime Assad. Alors la transition syrienne est-elle sur la bonne voie? Omar Youssef Soleiman, je rappelle, vous êtes français et syrien, vous êtes journaliste, vous étiez il y a quelques jours en Syrie. C'était d'abord un retour, si je peux me permettre, d'abord une question personnelle. Depuis combien de temps n'étiez-vous pas retourné en Syrie?
J'ai quitté la Syrie en 2012 en tant que réfugié politique et je suis venu en France. Donc ça faisait 13 ans que je ne suis pas revenu en Syrie, tout à fait.
J'imagine que vous y avez retrouvé une partie de votre famille?
Oui, depuis 13 ans, on ne s'est pas vu. Vous pouvez imaginer la situation de ne pas voir sa mère, ses frères pendant toutes ces années. Puis revenir et les revoir pour... c'était pas pour la première fois, mais comme si c'était la première fois, c'était extrêmement bouleversant, c'était émouvant. Et en même temps, il y a... Enfin, il y a, les mots ne peuvent pas exprimer. Ils ne peuvent pas exprimer parfois certaines rencontres. Alors, ma famille est basée à Homs. Et j'ai passé 2 semaines en Syrie, entre Damas et Homs. Il y a un décalage entre les deux villes. Vous voyez. Damas, c'est plutôt la phare. C'est toujours la capitale, elle est bien sécurisée. Le pouvoir actuel respecte la diversité de cette ville. C'est-à-dire, se trouve que les femmes ne sont quasiment pas harcelées dans les rues parce qu'elles ne sont pas voilées. Elles se trouvent dans le café Al-Rawda, le café historique. Des femmes et des hommes sont ensemble, etc. Il se trouve qu'il y a un sort de liberté, et même de liberté d'expression à Damas. Et ce n'est pas du tout le cas à Homs, malheureusement. Bah,
peut-être juste pour situer géographiquement, Homs, oui. Ça se trouve loin de la capitale Damas.
C'est à 12 heures en voiture depuis Damas. Homs, c'est vraiment au centre de la Syrie. Et elle a une situation particulière, car la moitié de la ville, c'est Alaouite, et les autres sont des sunnites. Donc, au moment de mon retour, je suis allé dans les quartiers, tous les quartiers alaouites et tous les quartiers sunnites, pour vérifier sur place la situation. Il y a plusieurs points qui étaient choquants, vraiment. Et ça fait peur pour l'avenir de la Syrie en regardant la situation de Homs. Premièrement, il y a des massacres commis quotidiennement, qu'on n'en parle quasiment pas dans les médias, aujourd'hui, contre les alaouites, surtout la combine de Homs dans les villages. On a tous les jours des hommes et des femmes qui sont kidnappés, sont torturés, sont tués. Et il y a la question de l'immigration.
Les alaouites, c'est la communauté d'appartenance de l'ancien président Bachar el-Assad. Donc c'est quoi? C'est des règlements de compte contre les membres de cette communauté?
C'est des règlements de compte. Et il y a un sujet aussi très dangereux aujourd'hui, c'est l'immigration. C'est-à-dire, il y a des alaouites et des chrétiens, surtout les chrétiens en fait, qui s'immigrent ailleurs. À l'instant, on a presque 140 familles chrétiennes ont quitté la ville de Firouza. C'est la commune la plus grande au niveau d'habitants dans mon lieu d'Homs. Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais là, c'est plutôt réaliste par rapport au sujet. Car je pense... Alors, j'ai discuté avec des gens de... Enfin, je les appelle toujours des HTC, mais ils disent qu'ils n'existent plus. Mais je veux dire, des responsables politiques en Syrie. Et j'ai tenté quelque chose très remarquable, toujours dans le média. En fait, il y a un décalage visible entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est-à-dire, ce qu'ils déclarent à l'Europe, ce n'est vraiment pas la réalité sur place. Ce que Chara dit, ce que, par exemple, Assad Chibani, le ministre des Affaires étrangères, a dit il y a 3 jours à Paris et à la suite de la conférence et conférence sur la Syrie et pendant la rencontre avec des Syriens, où j'y étais d'ailleurs, franchement, elle ne représente pas la réalité. Oui.
Donc, pour vous, c'est plutôt quoi, l'inquiétude qui domine un peu plus de 2 mois
en
après
fait,
la chute
de Bachar el-Assad. En fait, ce qui m'inquiète extrêmement, comme beaucoup de Syriens, c'est la justice, l'absence de la justice. Ce qui sauve la Syrie aujourd'hui, c'est appliquer la loi contre tout le monde, enfin, sur tout le monde, je veux dire, et sur les anciens chefs du régime de Bachar el-Assad, où certains, je tiens à préciser que certains de dirigeants de Bachar el-Assad, ils travaillent aujourd'hui avec le pouvoir actuel. C'est très dangereux pour les Syriens, vous voyez. Qu'ils voient, qu'ils croisent quelqu'un qui a assassiné son cousin ou son frère, et qu'ils travaillent avec le pouvoir actuel, c'est inacceptable. Et d'un autre côté, il y a des unités islamiques sur place aujourd'hui qui assassinent des civils pour des règlements de compte ou parce qu'ils sont islamiques radicales. Et les responsables aujourd'hui, ils disent, enfin, ce qu'ils m'ont dit, que ces unités, ils ne nous appartiennent pas. Mais quand on voit des unités militaires sur place, ils n'appartiennent pas au pouvoir. Mais c'est vous les responsables à tout ça, quand même.
Puisque vous avez évoqué la dimension confessionnelle avec les alaouites, les chrétiens, il y a aussi évidemment les musulmans, notamment les musulmans sunnites. Je crois que vous-même, vous êtes...
Moi, je viens d'une famille
musulmane sunnite.
Sunnite, hein. Mais moi, je suis athée, bien sûr.
Magali Lafourcade, la question de la justice, c'est une question fondamentale pour que la Syrie puisse envisager un avenir plus pacifique, disons.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'homme fort du régime actuel en a fait une clé de paix civile, et c'est ce qu'il a dit lors de la conférence à Paris jeudi, la paix civile entre les communautés, mais il y a aussi un autre enjeu qui est de documenter les crimes du régime de Bachar el-Assad, retrouver les disparus, 150 000 personnes qui sont portées disparues, réparer les victimes, c'est-à-dire trouver toutes les modalités en fait pour opérer une réconciliation dans ce pays. Et c'est très intéressant ce que vous nous dites là, parce qu'en fait, on voit bien qu'on est assez peu renseigné sur la réalité de ce qui se passe sur place. Et comme l'a dit Ahmed Al-Shara, il a dit on est plutôt dans une victoire militaire au lieu d'une victoire politique. Et donc, il se met pas dans le cadre juridique de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2254, qui permettrait justement que les Nations Unies, qui sont quand même, qui ont une expertise en la matière, puissent mettre en place une justice transitionnelle, des commissions vérité réconciliation et permettre une transition pacifique. Là, on est dans une sortie de guerre où on peut se retrouver avec des factions. Tout le territoire n'est pas sécurisé. Tant qu'il n'y a pas de sécurité au niveau du territoire, une intégrité du territoire, il est difficile d'avoir une relance économique. Tant qu'on n'a pas une relance économique, il est difficile d'avoir une stabilité du pouvoir. Et donc, il y a un risque qu'il y ait un autoritarisme qui s'exerce, d'autant qu'on n'arrive pas bien à comprendre quelles sont les véritables intentions de l'homme fort du régime, qui parle de démocratie, de diversité, même d'inclusion, sauf que c'est pas toujours très clair quelle va être l'orientation, si ce sera un régime répressif, autoritaire. Il faut aussi avoir...
Il y a l'idée d'avoir donc un gouvernement qui représente l'ensemble des Syriens dès le 1er mars, mais pas forcément d'élection dans un
futur très éloigné.
Ce qui après est un peu logique, quand on sait ce qu'a vécu la Syrie pendant plus de 10 ans.
Oui, mais là, il place un calendrier qui est quand même très éloigné, il a un pouvoir très centralisé, la place des femmes n'est pas très claire, et on peut vraiment s'inquiéter pour les droits humains, et face à ça, on a une société civile qui n'est plus la même, qui a vécu un moment de libération, et qui pourra plus être remis dans la boîte de la répression la plus brutale d'un régime qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte.
Et surtout que le pouvoir, ce qui est parodique, le gouvernement qui doit représenter tous les Syriens au début le 1er mars sera nommé par lui-même. C'est-à-dire lui, il a tout le pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui a nommé le groupe qui va décider la conférence nationale de la Syrie. C'est lui qui va nommer les gens qui vont refaire la constitution, etc. Donc il a un pouvoir très concentralisé sur lui-même. Donc on revit, je dis bas, une dictature comme Bachar al-Assad. En fait, rien n'est comme Bachar al-Assad. C'est vraiment l'objet de Hamas. On est fou de joie de se libérer de lui. Mais je tiens à préciser, parce qu'on a payé très très cher pour se libérer d'Assad, il n'est pas question de retomber dans un pouvoir totalitaire.
Didier Leschi.
Moi, je pense qu'il faut quand même rester optimiste. En tout cas, il faut essayer de l'être, parce que pour l'instant, il y a une tentative de stabilisation. Mais si on compare, par exemple, à ce qui s'est passé en Irak, tout de suite après la chute de Saddam Hussein, on est quand même dans une situation qui apparaît comme bien meilleure. D'abord, l'idée de mettre un terme au groupe armé, de reconstituer une armée légitime, si j'ose dire, en tout cas au sens où elle est sous la main du pouvoir politique, c'est quand même pas rien. D'éviter la guerre civile en portant pas aux extrêmes l'affrontement avec l'ensemble de l'administration de l'ancien régime, ça me semble plutôt intelligent. Je rappelle que la bêtise qui a été faite par les Américains au moment de l'invasion de l'Irak, ça a été de licencier d'un coup l'ensemble de l'armée et du coup d'avoir suscité partout une guérilla insensée et dont on a eu du mal à sortir. Les premières mesures, malgré tout, ou en tout cas les discours, il faut quand même croire les discours, c'est pas faire la chasse aux gens, c'est plutôt l'inverse. Il n'y a pas l'affirmation ce qu'on peut entendre pour l'instant, d'un pouvoir qui serait marqué par l'islamisme. Enfin, on n'est pas à Kaboul. À Damas, manifestement, on n'est pas à Kaboul. Il faut comprendre ça. Je pense qu'il y a quand même un intérêt national qui a été exprimé par le leader Al-Jolani, en fonction du nom qu'il prend.
Voilà, c'est Al-Jolani, Al-Shaarih, enfin...
Voilà, et qui est quand même important à noter. C'est-à-dire que, manifestement, il a l'idée qu'il faut reconstruire une Syrie, il a un sentiment national, et d'une certaine manière, il faut qu'on apprenne un peu par rapport à ce qui s'est passé. Je veux dire que l'avantage, entre guillemets, même par rapport à nous occidentaux, pour aller vite, c'est que c'est pas une libération avec des armées extérieures. C'est quand même quelque chose qui est parti de l'interne. Il y a une société civile qui existe. Et on voit bien là quelque chose qui est plutôt positif, par rapport à ce qui s'est passé. Et en plus, par rapport à ce qui a été dit justement précédemment sur Munich, je veux dire que l'ennemi, entre guillemets, qu'ils ont battu en même temps qu'ils ont battu Bachar al-Assad, c'est Moscou. Hein, c'est quand même pas rien. Je veux dire, il n'y a pas d'emblée un discours anti-occidental affirmé, même par rapport aux pays du voisinage, il est dit qu'on veut la paix, même la paix avec Israël. Enfin, c'est quand même, par rapport à l'ensemble de la région, c'est quand même un discours qui n'est pas habituel. Alors, ça peut terminer mal, mais...
Donc, Didier Leschi, eu égard à la teneur de ce discours des nouveaux dirigeants de la Syrie, les Occidentaux et les Européens notamment, ont tout intérêt, en tout cas, à soutenir et à accompagner cette transition.
Je pense qu'on a intérêt à accompagner la transition, quitte à négocier des choses, mais on a plutôt intérêt à ce stade à accompagner la reconstruction. Et du reste, un des éléments que je vois, moi, c'est que des gens retournent ici alors qu'ils peuvent avoir statut de réfugié ou la nationalité française. Ils y vont, ils reviennent, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans un chaos total. On est quelque chose qui est suffisamment stable pour pas y retourner. Je veux dire, aujourd'hui, un Afghan qui est oppositionnel aux talibans, il retourne pas à Kaboul.
Alors, je vais revenir vers vous, évidemment, Omar Youssef Souleymane, mais un mot aussi de Thomas Gomard sur cette question de la transition. On voit qu'une des conditions pour que cette transition puisse avoir lieu, ça va être, à un moment donné, la levée des sanctions que subit la Syrie. Mais qu'est-ce qu'on met d'abord? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut d'abord que le pouvoir donne des gages de démocratie, peut-être, et d'inclusivité du pouvoir pour pouvoir lever les sanctions? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas commencer par lever les sanctions pour permettre à ce nouveau pouvoir de se stabiliser et d'être plus conforme, on va dire, à un certain nombre de standards, notamment européens?
La séquence diplomatique qui a eu lieu cette semaine répond en partie à la question. D'abord, j'observerai qu'elle a réuni les pays européens et les pays arabes, la société civile syrienne, avec des absents qui étaient les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc ça, c'est je pense, un point important à relever. Le deuxième point important à relever, c'est que cette transition en Syrie se fait parallèlement aussi à une transition au Liban qui sort de plusieurs années d'instabilité politique. Alors c'est, je parle très prudemment évidemment, mais enfin on a l'impression au Liban d'être rentré dans un nouveau cycle. Concernant les sanctions, vous avez un mécanisme techniquement qu'on appelle le snapback qui avait été mis en place au moment des sanctions contre l'Iran, c'est-à-dire l'idée sur laquelle, en fonction des critères politiques que vous placez, vous levez des sanctions rapidement, mais vous les pouvez les remettre très rapidement en place si d'aventure les conditions politiques n'étaient pas observées. Je crois que ce qui est sorti de la rencontre du 13 décembre à Paris, c'est...
13 février.
Pardon, 13 février, je ne sais pas d'où vient ce lapsus de décembre, peu importe. Du 13 février, c'est l'accompagnement, au fond, de cette transition. Et dans le discours, alors après, il faut toujours que le discours se traduise dans les faits, mais la volonté des Européens de lever ces sanctions, précisément pour accélérer, autant que faire se peut, la reconstruction de la Syrie. Mais là, je pense que aussi, c'est très important d'avoir le témoignage de Omar Youssef, parce que on est quand même dans un pays où les combats continuent, où on a une situation avec 15 millions de réfugiés, un pays qui est complètement détruit. Et donc, je pense qu'il faut probablement aussi comprendre que ces périodes de transition, c'est pas le passage d'une image complètement noire à une image complètement lumineuse du jour au lendemain. Parce qu'il y a, à mon avis, deux points sur lesquels, moi, je n'ai pas trouvé d'éléments explicites cette semaine. C'est la question des Kurdes. Et d'autre part, la proposition faite, notamment dans l'expression du président Macron, la proposition faite aux nouvelles autorités syriennes de se joindre à la coalition anti-Daesh. Et ça, ce sont deux questions, à mon avis, qui restent très problématiques pour les autorités de transition.
Peut-être avez-vous des réponses au Mario Youssef Souleymane sur ces deux questions, la place des Kurdes dans la nouvelle Syrie et la question de la lutte contre Daesh et contre les organisations islamistes terroristes.
Je commence plutôt par le deuxième, justement pour ne pas arriver à une situation comme celle de Kaboul ou d'Afghanistan ou de l'Irak, ou pour ne pas tomber dans une guerre civile, on met les alertes aujourd'hui. Parce que quand on va à Damas aujourd'hui, dans la mosquée Omayyad, dans la Souk Hamidiya, au cœur de la ville, quand on va à Homs surtout, on voit les djihadistes étrangers qui se baladent. quasiment partout, qui viennent de Turkestan, qui viennent de Ligourde, qui viennent de l'Europe de l'Est. On a aujourd'hui presque 70 djihadistes français qui sont sur le sol syrien.
Et quand vous dites on les voit qui se baladent, c'est-à-dire?
Bah, ils sont en trop, ils sont dans leur propre groupe, etc. Le plus dangereux dans tout ça, c'est que le gouvernement actuel a nommé des hauts officiers djihadistes étrangers dans l'armée, la nouvelle armée syrienne. J'ai posé la question à deux responsables du gouvernement. Le premier, c'est qu'il s'appelle Alaa Omran, qui est le responsable de la sécurité de la région de centre, ça veut dire Homs et la banlieue de Homs. Et il m'a dit texto, ces gens, ils ont lutté avec nous pour faire tomber Bachar al-Assad, et ils sont nos confrères, et on va leur donner la nationalité syrienne. Comme toi, tu as la nationalité française, tu vas défendre la France s'il y a un problème en France aujourd'hui. Mais vous voyez la comparaison, c'est intelligent quand même de sa part. Or, ces gens-là, ces djihadistes qui étaient indésirables dans leur pays, qui sont réfugiés en Syrie, qui sont allés en Syrie, ils n'ont pas fait le djihad pour faire tomber Bachar al-Assad. Ils ont fait le djihad pour faire un État islamique. Il faut le dire, il faut l'assumer. Il faut être prudent. Pour ne pas répéter l'erreur de la France avec l'Iran de les années 70, où Khomeini a manipulé tout le monde avec un discours dit laïque ou dit respectant des droits humains, et puis il a renversé la table, il a renversé son rôle, il a imposé, il a transformé l'Iran à une grande prison. Pour ne pas, ça arrive en Syrie, on met l'alerte aujourd'hui.
Est-ce que ça n'est pas plus intelligent, Omar Youssef Souleymane, plutôt que de s'en faire des ennemis, que d'essayer de les intégrer?
Je ne dis pas qu'on fait des ennemis, je dis qu'on doit être très prudent et on ne jamais faire confiance aux islamistes au pouvoir. Et être toujours, vigilant et les mettre la pression aujourd'hui. On avait l'expérience en Égypte quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir. On avait les islamistes en Iran. Une fois qu'ils ont de l'argent et ils n'ont plus d'opposition, ils vont appliquer la charia parce que ça, c'est dans leur idéologie et dans leur esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec eux, mais il ne faut pas leur faire confiance à aucun cas.
Et sur les Kurdes ?
Sur les Kurdes, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème très compliqué. D'un côté, les Kurdes sont des Syriens, comme tout le monde, comme tous les Syriens, il faut traiter ce sujet de cette manière. Mais il faut se concentrer plutôt et sur le Kurde et sur la liberté d'expression et la liberté individuelle extrêmement menacée aujourd'hui en Syrie. Vous pouvez imaginer qu'on a une nouvelle loi. Aujourd'hui, le blasphème au cœur de Damas. Moi, j'adorais blasphémer. Ouais, par exemple, je dis que insulter Dieu, vous voyez, au cœur de Damas, au milieu intellectuel, était accepté. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi. Je l'ai fait au cœur de Damas. Il y a une nouvelle loi qui vient sortir du gouvernement, que celui qui blasphème, qui dit même, par exemple, quand aujourd'hui à Damas, tu dis j'aime pas Dieu, je suis condamné à 1 an de prison. Désolé, ça c'est inacceptable.
Didier Lesky, sur la question des djihadistes et des djihadistes étrangers, en particulier des djihadistes français, qu'est-ce que la France envisage de faire?
Alors, je ne sais pas ce que la France envisage de faire, mais mon sentiment profond, c'est que s'ils veulent rester en Syrie et si le pouvoir syrien les encadre en les mettant des structures, il vaut mieux qu'ils restent en Syrie et qu'ils n'arrivent pas jusqu'en France. Mais la particularité, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas un spécialiste de la Syrie, c'est quand même de ce pouvoir politique et de ce mouvement qui a quand même fait tomber le pouvoir syrien Bachar al-Assad, c'est que justement, il refuse l'idée d'internationalisme de la terreur. C'est-à-dire qu'un des éléments de la rupture avec l'État islamique ou avec Daesh, c'est justement de ne pas utiliser la poche d'Idlib pour monter des attentats en Europe. Voilà. Et donc, est-ce que s'ils maintiennent cette ligne-là, après la question de savoir comment ils vont construire la société syrienne, quelle est la place de la religion et quels sont les équilibres entre eux, parce que manifestement, ils ne sont pas unifiés, il doit y avoir des débats, des transactions entre eux, ça, on peut bien comprendre. Mais, si vous voulez, en Turquie, vous ne pouvez pas blasphémer, et en même temps, il vaut mieux un devenir pour la Syrie qui soit quelque chose qui ressemble à la Turquie que le chaos irakien. Enfin, c'est mon sentiment, voilà. La Turquie, il y a quand même une prégnance du religieux, avec une religion d'État qui est l'islam, et vous ne pouvez pas être chrétien et ouvrir comme ça une église en Turquie. Voilà. Mais en même temps, il vaut mieux cela que le chaos total.
La société syrienne est complètement différente de celle de l'Irak. En Syrie, on a des communautés, on a 2 millions de Russes, on a 3 millions alaouites, on a les Kurdes.
Bien sûr,
on a une diversité, il faut le respecter. Donc,
mais je ne dis pas le contraire.
Un État musulman ne convient jamais de la société syrienne. Ce n'est pas comme en Irak, ni comme en Turquie d'ailleurs.
Bien évidemment.
Mais... Magali Lafourcade, j'ai évoqué au tout début de ce sujet la figure de César, donc cet ancien militaire syrien qui a documenté une partie des crimes du régime de Bachar al-Assad. On évoquait tout à l'heure la question de la justice, mais là encore, en tout cas, cette documentation, ça va quand même permettre d'aller plus loin et de pouvoir poursuivre davantage encore peut-être de responsables de l'ancien régime.
Oui, tout à fait. Donc César a reçu et lauréat du prix des droits de l'homme de la République française qu'on a décerné le 10 décembre dernier.
Il est aussi. Je rappelle son nom, hein, Farid Almazan, puisque voilà. Maintenant on peut.
Maintenant
on peut le dire,
mais quand on lui a remis le prix, c'était encore confidentiel. Donc déjà au niveau français, il y a 13 mandats d'arrêt qui avaient été décernés par la justice française contre les dignitaires du régime de Bachar al-Assad. Il y a 24 procédures judiciaires qui ont été ouvertes grâce notamment au travail incroyable de César, c'est-à-dire que ces photographies atroces permettent de documenter des crimes et aussi de rechercher des disparus. Il y a 6786 détenus dont le corps a été identifié grâce à son travail. Et puis, il y a eu aussi en France un procès par défaut, donc c'est-à-dire une condamnation en son absence de deux hauts dignitaires du régime de Bachar al-Assad qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, il y a des mandats d'arrêt qui sont décernés. Donc on voit que la compétence française est en action au niveau de la justice. Et plus globalement, je pense que dans cette période de transition, Didier Lesquier a raison, on ne sait pas encore ce qui va advenir. En tout cas, on est vigilant. La France a tout intérêt. La France connaît bien la Syrie, elle connaît bien le Liban. Elle a tout intérêt à peser sur cette transition pour lever les sanctions, mais surtout essayer de que soient inclus les questions des droits humains, de cette justice transitionnelle. Et puis aussi, l'enjeu, c'est le djihadisme et ce que ça peut impliquer en termes d'actes terroristes sur le territoire national.
Omar Youssef Souleymane, pour terminer sur la Syrie, donc vous disiez, vous êtes revenu dans votre pays de naissance il y a peu, après l'avoir quitté en 2012, hein, c'est bien ça. Est-ce que vous envisagez d'y retourner pour y vivre, ou bien est-ce que votre vie aujourd'hui, elle est en France ?
En France.
En France, parce que vous êtes français depuis quand ? Vous êtes
depuis 2022. Oui, depuis 2022, j'ai obtenu la nationalité française, mais je pense que ce n'est pas une question de nationalité, je pense que c'est une question d'appartenance, une question de mode de vie, une question d'être français tout simplement, et cela, ça pose la question, ça c'est la deuxième partie de l'émission.
Quelle transition ?
Qu'est-ce que ça veut dire être français ? Franchement, je n'ai aucune idée, mais je peux vous dire, de mon point de vue, qu'est-ce que ça veut dire être français pour moi ?
Oui. Vous n'avez aucune idée, mais vous allez en avoir, si, parce qu'effectivement, c'est notre deuxième sujet.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Bah, être française, c'est adopter en fait un mode de vie, le mode de vie des Français, à savoir parler en fait la langue française et aimer en fait la culture française.
Bah, c'est chanter la Marseillaise, d'être derrière le drapeau bleu, blanc, rouge. Qu'on soit musulman, athée, catholique, on est quand même français avant tout, quoi.
Être français, c'est d'avoir la chance de vivre dans un beau pays en paix, avec la santé. Et puis ben voilà, et puis respecter les lois et en démocratie. C'est ça être français pour moi.
Et chasser les vieux débats, ils reviennent au petit trot. 16 ans après la tentative avortée de faire discuter les Français sur les valeurs de l'identité nationale, vous venez d'entendre un extrait de micro-trottoir réalisé à l'époque par le magazine L'Express. Vous savez que Nicolas Sarkozy, en 2009, en avait confié la mission à son ministre Éric Besson. Et bien 16 ans après, donc, voici que l'idée refait surface et c'est François Bayrou qui s'en fait cette fois le porte-drapeau. Le chef du gouvernement s'est justifié sur RMC il y a une huitaine de jours, évoquant un sujet qui fermente depuis des années. Ce qui fermente, a-t-il expliqué, c'est qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que ça donne comme droit, qu'est-ce que ça impose comme devoir, en quoi ça vous engage à être membre d'une communauté nationale, comment accède-t-on à cette dignité d'être français ? Vaste programme. En venant de François Bayrou, de tels propos peuvent surprendre, lui qui s'était opposé en 2009 au principe du grand débat sur l'identité nationale, contribuant avec d'autres à faire échouer cette initiative sulfureuse. Mais les circonstances politiques ont changé. Soucieux de ne pas laisser à ses ministres de l'Intérieur et de la Justice le soin d'occuper seul le terrain de la question migratoire, le chef de gouvernement a donc manifesté sa volonté d'élargir la réflexion. Alors qu'est-ce qu'être français ? Bien, être français, ça ne peut pas être le hasard de la naissance. Être français, c'est une volonté, c'est ce que lui a répondu Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, tout à son idée de revoir les modalités du droit du sol. Mais le hasard de la naissance n'est-il pas aussi à l'œuvre dans le droit du sang, dans le fait de naître de deux parents français ? En quoi la filiation relèverait-elle davantage de l'expression d'une volonté? Comme le dit la chanson de Maxime Le Forestier, être né quelque part, c'est toujours un hasard. Si bien qu'au fond, on pourrait considérer que seuls ceux qui font expressément la demande de devenir français relèvent de cette dignité. Ils étaient 40 000 en 2023 à obtenir leur naturalisation. Ne sont-ils pas les mieux placés pour nous dire ce que c'est qu'être français? Nous sommes donc toujours en compagnie d'Omar Youssef Souleyman, qui a publié en 2023 chez Flammarion Être français, de Magali Lafourcade, de Didier Lesky et de Thomas Gomard. Je commence d'abord par une question un petit peu générale. Enfin, Didier Lesky, Thomas Gomard et Magali Lafourcade. Est-ce que vous êtes tous français de naissance d'abord pour commencer?
Oui.
Oui.
Béarnais, donc français.
Béarnais, donc français.
Et Didier Lesky. Oui, je suis français de naissance.
Ça n'est aussi. Non,
je... Alors oui, ça n'est pas votre cas. Donc vous, Omar Youssef Souleyman, né en 1987. Donc vous nous avez dit que vous êtes réfugié en France en 2012. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France, d'ailleurs à l'époque, pour émigrer?
Parce que j'adore, enfin, il y a d'abord la culture française qui m'a attiré. Quand j'étais en Syrie, avant d'arriver en France en 2012, je ne parlais pas la langue française. Tout ce que je savais de la France, c'est le pays de la poésie, le pays de Paul Éluard, le pays de Voltaire, le pays d'Aragon, point barre, parce que j'ai fait mes études de la littérature arabe, on étudiait un petit peu la littérature française, mais j'avais lu Éluard auparavant. Donc, ce qui m'a attiré en France, c'est vraiment Éluard. Et Éluard, pour moi, c'était pas seulement un poète, mais aussi un homme de résistance, un homme de la liberté, etc. C'était mon exemple. Alors, j'arrive en France en 2012, je commence à apprendre, enfin, bien sûr, j'ai pas trouvé Paul Éluard. En arrivant à Paris, j'ai trouvé RERB, Paul Emploi, etc.
Ah, c'est notre poésie.
Les babies administratives. Ah oui, grave. Les babies administratives, ce qui était pas très, très poétique. Mais petit à petit, une fois que j'ai appris la langue française, c'est à partir de ce moment, je pense, que j'ai commencé à m'intégrer en France. Et j'aime bien ce mot. Et si je peux résumer, la France, c'est vraiment le pays de l'intégration. C'est-à-dire, on accueille les autres et on aimerait bien qu'ils soient aussi français. C'est tout, c'est possible. Oui.
Et c'est ce qui vous a conduit à cette démarche de demander la naturalisation
d'abord,
française
d'abord, en fait, justement, la naturalisation, c'est une question d'administration. Mais être français, c'est complètement autre chose. Moi, je pense être français, c'est pas naître en France, mais renaître en France d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire appartenir aux principes de la République. C'est-à-dire respecter la liberté d'expression, quand même rendre la liberté d'expression comme quelque chose de sacré à défendre. Et je termine là. Enfin, par exemple, être attaché, tout simplement, être attaché à un ou plusieurs éléments concernant la France et défendre cet élément, c'est-à-dire s'engager pour le défendre. Pour moi, c'est ça, être français, c'est-à-dire l'attachement et l'engagement.
Vous dites que c'est quelque chose d'administratif. Est-ce que ça veut dire, Omar Youssef Souleyman, que si jamais vous n'aviez pas été naturalisé français, vous pourriez quand même vous considérer comme français?
Bien sûr. Et même figurez-vous que je me considère comme français même avant de venir en France. Parce que pourquoi on a fait la révolution en Syrie? C'est pour avoir un État laïque. Et c'est pour avoir la démocratie, avoir la liberté d'expression. Tout ceci, sont les principes de la France, fondamentale, voyez. Donc aujourd'hui, évidemment, avant d'être français d'une manière administrative, j'étais français sans papier. Aujourd'hui, je suis un français avec papier, tout simplement.
Thomas Gomard, qu'est-ce que c'est qu'être français? Ce sont peut-être ceux qui ne le sont pas de naissance qui en parlent le mieux.
Bah, à l'évidence. Je crois que ce que vient de nous dire Omar Youssef montre aussi l'importance de la France comme idée, en fait, comme concept. Et c'est peut-être quelque chose qui différencie la citoyenneté française par rapport à d'autres. Je pense qu'on comprend qu'on est français quand on vit à l'étranger. C'est mon cas avec notamment long séjour en Russie ou au Royaume-Uni, qui sont des pays dans lesquels on s'intègre probablement aussi, mais de manière très différente de l'intégration à la française. Alors en préparant l'émission, et je vais peut-être essayer de placer la discussion différemment, en préparant l'émission, il y a deux références qui me sont venues tout de suite à l'esprit, pardon, pas à l'IFRI, mais à l'esprit.
L'IFRI, dont vous êtes le directeur.
Voilà, là aussi.
Placement de produit.
Voilà, bon, absolument. mon inconscient vient à nouveau de parler. Il y a le texte, évidemment, de Fernand Braudel, il y a maintenant 40 ans, L'identité de la France, qui avait été publié une fois après son décès, mais qui était concomitant de, je vais revenir sur ce point, de la dynamique du capitalisme. Ensuite, la deuxième référence qui m'est venue, date d'il y a 20 ans, c'était le texte d'Huntington, Qui sommes-nous? Pourquoi je fais ces
Samuel
deux
Huntington
Voilà, Samuel Huntington, qui avait fait le choc des civilisations, livre très, très, très important. Alors, pourquoi je prends ces deux références? Parce que, quand on relit ce qu'écrivait Braudel, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Pour Braudel, la spécificité de la France par rapport notamment aux Pays-Bas, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, c'est qu'il y a toujours eu un encadrement capitaliste défaillant. en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capitalisme n'a pas réussi à discipliner le pays jusqu'à sa base, à la différence des autres pays précédemment cités. C'est pour ça que je parlais de la concomitance avec la dynamique du capitalisme. Et moi, je me demande si en 40 ans, en fait, c'est pas ça qui a beaucoup changé dans l'identité des Françaises. C'est-à-dire une France qui est rentrée de plein pied dans la mondialisation, qui est dans les flux, qui est complètement intégré à l'économie mondiale, tout en gardant 58% de PIB, de dépenses publiques. Et ça, je pense que c'est très spécifique à la France par rapport à d'autres systèmes, à la fois, on va dire, en Occident, mais plus largement dans le monde. Et puis, la référence à Huntington, pourquoi je l'utilise, c'est qu'Huntington écrit ce livre en 2004, et il dit, au fond, il y a une vision des États-Unis qui a consisté à dire « c'est un pays de migration ». En fait, non, c'est pas un pays de migration, c'est un pays de settlers. Hein, au cœur du système politique, de la construction politique institutionnelle, il y a l'héritage anglo-protestant, et que cet héritage est aujourd'hui érodé par deux choses, l'entrée dans la mondialisation, et le fait que les élites se détachent de cet héritage, et donc remettent en cause, au fond, des principes fondateurs. Et je pense que ces deux références sont utiles à rappeler dans la manière dont le débat se pose en France. Vous l'avez rappelé, Éric Besson avait tenté... il y a 16 ans, effectivement, un débat pour agiter un peu les... On sent bien l'enjeu électoral par rapport à 2027. Et je pense que cette discussion me semble en réalité très intéressante en soi, comme on l'a engagée, et en même temps très réduite si on la voit de manière électoraliste. Et le risque, à mon avis, c'est pas du tout d'éviter cette discussion sur l'identité qui est la nôtre, de l'aborder de manière ouverte, une identité plurielle, etc., mais de ne pas réduire cette discussion à, au fond, une finalité 2027.
Et on voit à quel point, justement, alors François Bayrou a peut-être essayé d'élargir le débat plutôt que de rester uniquement sur la question du droit du sol, en essayant de l'intégrer dans cette question. Qu'est-ce que c'est qu'être français, Magali Lafourcade? Alors, je rappelle, vous êtes secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les droits de l'homme qui ont vocation une forme d'universalisme. Mmh. Est-ce que être français, c'est aussi porter peut-être cet universalisme? Et qu'est-ce que ça dit aussi de notre société française que de vouloir, comme ça, à intervalles plus ou moins régulier, rediscuter de ce que c'est qu'être français.
Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Thomas Gomard, c'est-à-dire que l'identité de la France, elle est claire, c'est la République, un système de valeurs basé bien sûr sur la philosophie des Lumières et qui s'incarne dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc le moment de la Révolution française a été extrêmement important, et ce texte est dans le préambule de 1946 comme de la Constitution de 1958. Donc on est au clair là-dessus. Par contre, dès lors qu'on parle de l'identité française et plus de l'identité de la France, viennent se mêler d'autres considérations. La passion qu'on a pour la baguette, la passion qu'on a pour certains auteurs, les paysages français, Thomas parlait du Béarn, non, c'est ça? Donc voilà, on a tout de suite quelque chose qui est plus un attachement plus sensible, hein, et plus individuel. Le risque, c'est quand on passe à un débat qui est autour d'un référentiel ethno-racial. Et on est comme instruit du débat de 2009-2010 où on a vu des contributions qui étaient très véhémentes, avec une libération de la parole xénophobe et une montée en puissance du Front National à ce moment-là. Aujourd'hui, on est dans un écosystème politique et médiatique où on a face à nous aussi, depuis 2023, une augmentation extrêmement importante des actes racistes et antisémites. Or, la France s'est construite dans ses valeurs fondamentales en 46, dans l'idée qu'il ne fallait pas être dans ce référentiel ethno-racial. C'est-à-dire que toute la communauté internationale, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier l'Holocauste, s'est dit qu'on était dans un régime de non-discrimination. Voilà. Et nous, on a voulu aller plus loin, avec, à l'article 1er de la Constitution, sans distinction de race, d'origine, religion, c'est-à-dire un référentiel où on ne veut même pas avoir à distinguer, parce qu'on ne veut pas définir qu'est-ce que c'est qu'un juif. C'était ça, c'était tourner le dos aux lois de Vichy. Et là, on a une dérive potentiel d'avoir de nouveau un débat qui se tourne autour de qu'est-ce que c'est que la qualité de français versus d'autres qui seraient soit des ingrats, pas des bons français, qui ne mériteraient pas ce statut. Et justement, notre idée de la France, c'est qu'on doit tous respecter la loi de la France et qu'on ne peut pas suspecter a priori qui que ce soit en raison de la couleur de sa peau, de sa religion, de ne pas être un bon français à cause de ce référentiel ethno-racial. C'est ça notre identité, et c'est là la dérive. On voit bien que ça s'est passé sur le cas de Mayotte, puis après la question du droit du sol, et maintenant on est un peu dans une surenchère entre des ministres de la justice, de l'intérieur et un premier ministre. journaliste qui veut élargir le débat, mais qui est peut-être un débat qui peut mener à beaucoup d'exclusion.
Mais vous parlez de bon français. Est-ce qu'on peut être un mauvais français, par exemple, si on n'adhère pas à un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs qui font de la France? C'est-à-dire, est-ce que cette distinction, elle peut exister malgré tout?
Ah, je crois que quand on réfléchit à ce que c'est qu'être français, c'est justement déjà respecter la loi française. C'est ça la limite. On n'est pas dans un débat sur la morale. Mais par contre, ce qui est dangereux, c'est de...
Donc si je ne respecte pas la loi, que je sois, et que je suis français, ça fait de moi un moins bon français que les autres?
Ça fait de vous un français potentiellement délinquant.
Didier Lesky, comment est-ce que vous répondez-vous à cette question? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Vous qui êtes, je le rappelle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration?
Écoutez, d'abord, il faudrait essayer de comprendre pourquoi ce débat revient alors régulièrement, là on disait il y a 16 ans. Je crois que, comme le disait Thomas Gomard, il faut voir quel est l'impact justement des bouleversements économiques et sociaux et qui a amené une société qui est quand même de plus en plus anomiée. Voilà, il y a le sentiment qu'une acculturation ne se fait plus dans une partie de la société à ce qui a fondé historiquement nos valeurs. Alors, j'ai fait un peu comme lui, j'ai essayé de relire un peu les classiques. Hein. Il y a un livre célèbre, L'étranger dans le discours de la Révolution française, qui s'appelle L'impossible citoyen, qui justement essayait d'analyser ce qui se passe au moment où on va définir ce que c'est, entre guillemets, la francité, c'est-à-dire, au fond, l'adhésion au projet révolutionnaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être français? C'est à ce moment-là, ou qu'est-ce que c'est qu'être citoyen? C'est adhérer à l'idée de l'émancipation ou lumière, et donc mettre en place un sentiment de solidarité à partir de l'acceptation du projet révolutionnaire. C'était ça, fondamentalement, que d'être, je dirais, français ou d'être citoyen, puisque après, il y a un décalage entre la citoyenneté et l'idée de l'identité nationale telle qu'on le connaît aujourd'hui.
Donc, et ça va encore pour aujourd'hui?
Mais le sentiment qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de la société qui n'adhère plus à ça. Voilà. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que ce type de débat qui est lancé, eh bien, il trouve un écho dans une partie de la population, parce que justement, il y a une partie de la population qui se dit, et pour reprendre un peu les mots d'Edgar Quinet, voilà, qu'est-ce que c'est que l'exil intérieur? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme exil vraiment douloureux? C'est d'être dans un pays et ne plus reconnaître ce qui fait qu'on aime ce pays. Voilà. Et donc, il peut y avoir des endroits en France où on n'arrive plus à reconnaître ce qu'est le pays, au sens où il est censé être structuré autour de valeurs, autour de comportements sociaux, autour d'une manière de vivre ensemble. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être français? C'est une manière de vivre ensemble. Voilà. Et dès lors que cette manière est remise en cause, ou apparaît comme remise en cause, ou dès lors qu'on a le sentiment que, justement, une partie de ceux qu'on accueille, eh bien, n'arrive pas à s'acculturer à ce que nous sommes, eh bien, ça crée des tensions. Voilà. Et alors, est-ce que le droit...
Mais on peut être français, par exemple, par ses parents, être né en France, avoir des parents français, et ne pas forcément adhérer à tout. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait pas, peut-être, je sais pas, moi, qu'il y ait une cérémonie commune à 18 ans de tous les jeunes, français ou non français, pour dire, bah voilà, qu'ils appartiennent à cette communauté-là. Alors, c'est peut-être, vous allez me dire, ce que faisait le service militaire à une époque pour les garçons.
Bien sûr, et c'est ce qu'on a essayé de remettre en place à un moment donné avec la journée d'appel qui était mixte et qui a plus ou moins marché. Mais je pense que c'est une question qu'on peut se poser légitimement. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que c'est que l'étranger à la société civile? C'est celui qui est dans une dynamique de séparation par rapport à la société civile. Et ça peut être effectivement quelqu'un de nationalité française. Un djihadiste peut être français, d'une certaine manière, il n'appartient plus à la communauté nationale, et c'est un traître à la communauté nationale, et on pourrait aller jusqu'à lui retirer la nationalité française, parce que c'est effectivement un traître et c'est prévu par le code, du reste, dès lors qu'on a tissé des liens avec l'ennemi, voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'être français? C'est d'abord appartenir à cette idée d'une perspective en tant que société commune. Voilà. Et dès lors qu'on rompt avec cette perspective qui est issue d'un héritage dont on peut dire qu'il est très marqué par la Révolution française, à ce moment-là, on n'est plus français ou on refuse d'être français. Voilà. Pourquoi ce débat marche dans une partie de la société? Parce qu'effectivement, les bouleversements économiques et sociaux participent de la déstructuration de pans entiers de la société. Et du coup, une partie s'interroge. Est-ce que le droit peut résoudre cette question-là? Je ne le crois pas. Enfin, je veux dire, je suis pas contre le droit en soi, mais je pense que la question qui est posée dépasse la question du droit.
Sur cette question, il y a notamment alors le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est exprimé, qui a utilisé deux expressions que je voulais vous soumettre à tous les quatre, à commencer par vous, Omar Youssef Souleymane. La question alors des modes de vie, c'est-à-dire être français, c'est respecter le mode de vie, mais qu'est-ce que c'est que le mode de vie? Il a utilisé aussi un autre terme qu'on entendait peut-être un petit peu moins ces dernières années, qui est celui de l'assimilation quand on est né étranger, qu'on est devenu français. Peut-être commencer par ça d'ailleurs. L'assimilation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que s'assimiler, ça veut dire aussi renoncer à ce qu'on a été auparavant?
Pas forcément. En fait, on peut vraiment faire... Par exemple, personnellement, je me considérais comme quelqu'un assimilé à la France et à la société française, sans abandonner mon origine syrienne. Et figurez-vous que là, je me sentais être français vraiment. C'était quand je suis allé en Syrie, parce que je suis pas allé en Syrie comme un Syrien, le migrant, le petit migrant qui est de retour dans son pays. Non, avant tout, je suis allé en Syrie en tant que Français. Dans la France, parce que je suis engagé à la France universaliste, comme Magali en parlait. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut défendre ce pays contre l'intégrisme. Il faut lutter pour la démocratie ailleurs et pour la liberté d'expression ailleurs. Et c'est d'ailleurs, pour moi, c'était la Syrie, parce que je suis Français. Parce que quand on est Français, on est aussi intéressé par les causes internationales. Alors, revenons à la mode de vie. Par exemple, on a une civilité dans une société, à mon avis. Regardez, par exemple, en Syrie, on ne peut pas... Aujourd'hui, il y a ce système ou ce mode de vie, il est complètement différent de la civilité française. Par exemple, on ne peut pas boire de l'alcool dans la rue, dans plusieurs villes. Aujourd'hui, une femme non voilée, elle est complètement indésirable, même elle est harcelée. Une femme et un homme marchant ensemble, aujourd'hui, si cette femme ne fait pas partie de sa famille ou elle n'est pas son épouse officiellement avec un contrat, elle peut être harcelée par un monde HTC. Donc ce mode de vie, s'il convient à la société syrienne, moi je ne le crois pas, mais s'il convient à la société syrienne, ok. Mais moi ça ne me convient pas du tout. Voyez. C'est-à-dire, moi je suis intégré en France, où j'appartiens à une société française qui a certaines civilités. Alors cette civilité n'accepte pas non plus, par exemple, une femme masquée dans la rue aujourd'hui en France, parce que ça c'est aussi dans la loi. Voyez. Donc moi je pense que c'est ça ce que le ministre parlait par rapport à au mode de vie. D'autres choses que j'aimerais bien à préciser, enfin en parler. Ce qui m'a protégé en Syrie, avant tout, c'est être français. C'est parce que j'ai ce passeport français, c'est parce que j'appartenais à la France, cela m'a protégé du pouvoir actuel sur place. Donc je suis reconnaissant à la France, et il faut le dire d'une manière ou d'une autre, et je défends ce pays. Ce n'est pas une question de nationalisme, mais une question de peut-être reconnaissance et de défendre la laïcité. Avant tout, c'est le pilier de la République qui nous protège tous, qui nous permet de chacun et chacune pratiquer sa civilité, ses traditions ou sa religion, peu importe, musulman, chrétien, juif, et dans son endroit. Et ce qu'on luttait pendant très longtemps en Syrie, et on n'arrivait pas à le faire pour pleine de raisons.
Thomas Gomard.
Oui, pour peut-être reprendre ce qu'a exprimé Magali aussi, Didier, moi je ne suis pas sûr qu'il faille rentrer dans le débat uniquement à partir de la Révolution française, précisément. C'est-à-dire, je pense que c'est même au cœur du sujet, d'une certaine manière. Parce que quand on parle de l'identité de la France de Brodel, c'est aussi tout l'héritage pré-révolutionnaire. Bon. Et je pense que ça rejoue aujourd'hui de manière extrêmement forte entre, pour simplifier à outrance, mais tout le monde va comprendre, le Puy du Fou ou la cérémonie d'ouverture des JO. Mais dire, en fait, l'identité de la France, c'est uniquement l'universalisme voltairien, c'est une partie très importante, mais c'est pas la seule. Bon. Et précisément, la partie, on va dire, Puy du Fou, semble avoir une dynamique nouvelle dans le discours public ou dans sa finalité électorale. Donc je pense que c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est cet héritage très composite et arriver à le traiter politiquement d'une certaine manière. Le deuxième aspect, c'est que la question du mode de vie, Elle peut se voir à différents niveaux de la société. C'est-à-dire qu'on est devant des formes de sécessionnisme, mais qui ne sont pas forcément là où on les attend. Il y a un sécessionnisme de gens qui, effectivement, ne veulent pas respecter le mode de vie, et ça se traduit par toutes les crispations sur le voile, par exemple, dans l'espace public. Il y a des formes de sécessionnisme aussi pour des élites ultra-globalisées qui oublient complètement
d'où elles viennent, où elles ont été formées intellectuellement, pour ensuite être dans une sorte de mondialisation et oublier leur patrie d'origine, entre guillemets, dès que ça les arrange. Et ayant souvent, ça c'est aussi tout le phénomène aussi de l'expatriation de Français à l'étranger, qui ont souvent un discours extrêmement critique sur la France, jusqu'au jour où ils doivent venir se faire soigner en France, en fait. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces formes de sécessionnisme, c'est peut-être aussi par là que le débat, qu'on entre dans le débat, alors que ce qui serait intéressant, c'est effectivement d'essayer de voir ce sur quoi il y a un aspect de cohésion qu'il faut toujours renforcer, entretenir. Et de ce point de vue-là, le travail fait par Nora en sautant sur les lieux de mémoire me semble très utile, parce que ça montre précisément, ça montre précisément que personne n'est insensible devant un monument aux morts. Voilà, qui rappelle par exemple ce qu'a été 14-18, et puis que la lettre ou la visite au grand écrivain, il y a un article dans les lieux de mémoire sur la visite au grand écrivain, fait aussi partie de cette identité. Donc je pense que le débat, ça serait aussi peut-être d'essayer de trouver des points de convergence et pas de dire en fait ça commence à la Révolution ou c'est uniquement l'héritage monarchique qui nous constitue.
Des points de convergence, et puis aussi peut-être accepter que l'identité française, c'est pas quelque chose de figé et que ça évolue dans le temps, hein, Didier Leschi.
Bien sûr, mais j'entends ce que dit Thomas Gomard, et on a tous en mémoire, enfin pour beaucoup d'entre nous, la phrase de Marc Bloch, voilà, on communiait à la fois au Sacre de Reims et à la fête de la Fédération 1792. Mais justement, pourquoi la référence à la Révolution française? Parce que ce qu'on demande, c'est pas d'abraser l'ensemble des particularismes. Voilà, et Thomas Gomard et Béarnais comme le Premier ministre, qui est lui-même très attaché aux langues régionales, comme chacun sait. Et donc justement, c'est parce qu'on ne demande pas d'abraser tout, d'abraser l'identité syrienne qui continue à vous constituer malgré tout, que l'important, c'est de savoir à quel projet politique, au terme de quelle organisation sociale, on accepte et on adhère et on est capable de faire vivre ensemble. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est au-delà des particularismes qui sont légitimes, un Alsacien n'est pas un Breton, n'est pas un Corse, enfin, on peut l'être aussi, c'est est-ce qu'on accepte ou pas cette sociabilité qui fait qu'on respecte l'autre, qu'on pense que une femme voit un homme, voilà, et qu'on adhère, je dirais, à ce qui fait aussi le paysage, je suis d'accord. Voilà.
Mais ça, c'est pas typiquement français, c'est-à-dire il y a plein d'autres pays qui peuvent aussi revendiquer ces valeurs-là, cette civilité.
Le paysage français n'est pas le paysage allemand, n'est pas le paysage anglais, et il y a une manière de vivre le paysage. Du reste, pourquoi j'utilise le paysage? Parce que justement, il peut y avoir une partie de la société, en particulier dans les zones urbaines, où le paysage s'est tellement transformé et on a une imposition de la religion dans le paysage qui rappelle justement les périodes d'Ancien Régime, hein, où on n'avait pas le droit d'exposer de la viande pendant les périodes de carême, sous peine justement d'aller en prison. Et il y a le sentiment que le paysage est devenu contraire à l'esprit laïque qui a été construit depuis plus de 200 ans.
Je pensais que vous alliez aussi évoquer des paysages urbains extrêmement froids et industrialisés qui n'incitent peut-être pas non plus à un sentiment d'appartenance. Si vous voulez bien, on va aller, juste parce que c'est quasiment la fin de l'émission, laisser le mot de la fin à Omar Youssef Souleymane sur cette question.
Moi, j'aimerais bien justement parler de la diversité française, parce que cette diversité à laquelle j'appartiens, on est dans un pays extrêmement divers, et cette diversité pourrait être pour nous protéger, pour être un point de progression, ou pourrait être aussi un problème pour ce pays. Et je pense que la diversité, d'une manière ou d'une autre, est aussi une identité. Personnellement, là, on parle malheureusement, on a toujours cet encadrement, quelqu'un qui vient d'ici, qui est migrant, etc. De quelle communauté, de quelle religion? Personnellement, ma seule communauté aujourd'hui, c'est la France.
Vous avez eu la civilité de laisser 30 secondes à Magalila Fourcade.
Je crois qu'en fait, l'enjeu d'un débat, on ne sait pas du tout comment il sera mené, c'est vraiment de produire du commun pour pouvoir, je crois que ce qui nous réunit tous ici, c'est l'idée que de s'inscrire avec donc ce legs qui est très riche de notre passé, de s'inscrire dans une trajectoire commune, et que la France soit diverse, c'est toujours en fait la rencontre d'un projet politique et d'une assise culturelle qui permet de construire une nation. Donc est-ce qu'on est si singulier que ça? Je ne sais pas. Par contre, on a toujours eu envie de se projeter dans une universalité.
Voilà, et si jamais ce débat devait avoir lieu, espérons qu'il aura pour cadre une ambiance aussi civile entre vous quatre. Merci en tout cas Magalila Fourcade, Thomas Gomard, Didier Leschi et Omar Youssef Souleymane.
Kleiman d'avoir participé à cette discussion. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jeanrenaud, avec à la prise de son François Saint-Jour. À dimanche prochain.